Bonjour, plaisir de vous retrouver. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Alors que les États-Unis restent secoués par des manifestations historiques après la mort de George Floyd suite à son interpellation par la police, la famille d'Adama Traoré, mort en 2016 en France à la suite de son interpellation par la gendarmerie, a organisé hier soir un rassemblement contre le racisme et les violences policières devant le tribunal de grande instance de Paris. Explication au début de ce journal avec Margot Delpierre. Et puis pour évoquer donc cette Amérique au bord du gouffre, invité de la rédaction François Durpère, historien et spécialiste des États-Unis. Les listes pour le second tour des municipales en France sont toutes déposées depuis hier soir. La date est fixée, on le rappelle, au 28 juin, sous réserve de bons indicateurs sanitaires. Mais du côté de La République En Marche, eh bien, on n'a pas spécialement hâte d'y être, nous dira Rosalie Lafarge. Enfin, les multinationales sont-elles en train de s'accaparer la manne financière du plan de relance économique? C'est en tout cas une véritable offensive qu'ont mené les cabinets d'influence des grands groupes pendant cette crise, selon l'association Les Amis de la Terre, qui dénonce donc dans un rapport publié aujourd'hui les limite du dispositif de transparence du lobbying en France. Précision à suivre avec Annabelle Grolier. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera donc bien sûr la grande table des idées. Ils étaient plusieurs milliers, 20 000 personnes au moins, à s'être rassemblées hier soir devant le tribunal de grande instance de Paris pour dénoncer les violences policières. Une manifestation organisée à l'initiative des proches d'Adama Traoré, ce jeune homme décédé en 2016 après son arrestation par les forces de l'ordre au terme d'une course-poursuite. Alors il se trouve que ce rassemblement avait lieu le jour même où était dévoilée une nouvelle expertise réalisée à la demande de la famille de la victime et mettant en cause les gendarmes dans la mort d'Adama Traoré. Quoi qu'il en soit, ce rassemblement a été émaillé de heurts, jets de projectiles, tirs de gaz lacrymogènes, 18 personnes ont été interpellées. Il faut dire que dans le contexte sanitaire que l'on connaît, ce rassemblement avait été interdit par le préfet de police. Eh bien, en ce sens, Margot Delpierre, les chiffres donnés par la préfecture, 20 000 manifestants, donc, sont impressionnants, preuve que la colère est forte.
Les images montrent une foule impressionnante réunie porte de Clichy. 20 000 personnes se sont rassemblées selon la préfecture de police. 40 000 dit ce matin Assa Traoré chez nos confrères de France Info. C'est la sœur d'Adama Traoré, mort en juillet 2016 à la suite de son interpellation par la gendarmerie à Beaumont-sur-Oise dans le Val d'Oise. Une affaire devenue un symbole. Chaque année, des marches ont lieu en hommage à ce jeune homme de 24 ans. Elle réunissait plusieurs centaines de personnes les premières années, jusqu'à quelques milliers parfois selon les organisateurs. Mais le rassemblement d'hier, pourtant interdit par le préfet de police, a pris une toute autre ampleur. Une colère et un sentiment d'injustice ravivé par un rapport d'expertise médicale publié il y a quelques jours et selon lequel une défaillance cardiaque est à l'origine de la mort du jeune homme. Une expertise bidon faite par des charlatans, affirme Assa Traoré. Depuis, un nouvel examen réalisé à la demande de la famille estime que sa mort serait due à une asphyxie à cause du plaquage ventral exercé par les gendarmes. Cette mobilisation s'inscrit aussi dans un élan planétaire contre les violences policières parties des États-Unis depuis la mort de George Floyd. Un élan également soutenu par de nombreux artistes français et pas que sur les réseaux sociaux. On a pu voir hier aux côtés d'Assa Traoré les actrices Adèle Haenel et Aïssa Maïga, le rappeur Abdelmalik ou encore la chanteuse Camélia Jordana.
Alors on l'a dit, la manifestation parisienne d'hier soir avait lieu dans un contexte particulier, celui des manifestations organisées aux États-Unis, donc après la mort de George Floyd, mais il n'y a pas qu'en France qui sème ainsi les manifestations dénonçant les brutalités policières et le racisme. La colère se propage également au Canada, en Irlande, au Brésil ou bien encore en Palestine. On va voir tout cela avec vous, Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Autant de manifestations, Louise, de solidarité tout d'abord envers les Afro-Américains.
Oui, rassemblement à Milan, en Italie, dès jeudi dernier, trois jours après la mort de George Floyd, mais aussi à Londres et Manchester ce week-end, Berlin, Amsterdam, Dublin, Zurich, Copenhague, dont de nombreuses capitales européennes. Les manifestants ont convergé ces derniers jours vers l'ambassade américaine, reprenant les slogans « Black Lives Matter »,« No Justice, No Peace » ou « I Can't Breathe ». Scène similaire à Auckland, en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à Perth, en Australie, où les manifestants dénoncent aussi le traitement des minorités et des aborigènes, car les revendications locales alimentent souvent la dénonciation plus générale du racisme.
Et puis comme en France, donc Louise, des figures émergent parfois qui cristallisent la dénonciation des violences et des discriminations.
Oui, exemple au Canada ou à Toronto, Montréal et Vancouver, le nom de Régis Korczynski Paquette se mêle à celui de George Floyd. Cette femme noire de 29 ans est tombée du 24e étage de son immeuble la semaine dernière lors d'une intervention policière dans des circonstances encore très floues. Au Brésil, la violence policière dans les favelas de Rio porte un nom, celui de João Pedro Matos Pinto, adolescent de 14 ans tué lors d'un raid contre des narcotrafiquants. Sachant qu'à la demande du président Bolsonaro, les interventions de la police se sont multipliées ces dernières semaines dans les favelas, déjà frappées par l'épidémie de coronavirus.
Voilà, et puis dernière illustration au Nigeria, cette fois-ci, Louise, où ce sont les violences envers les femmes qui sont dénoncées.
Oui, dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, où les manifestations de rue sont rares et souvent réprimées dans le sang, la jeunesse choisit la toile pour crier sa colère. Les hashtags Justice for Uva, Jennifer ou Tina ont été partagés des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux ces derniers jours, à la mémoire de Jennifer, 18 ans, victime d'un viol collectif, ou de Tina, 16 ans, abattue par un policier. Colère relayée par plusieurs rappeurs célèbres dans le pays. Et puis, en Palestine, le cas d'Iyad Alak suscite l'émotion, abattu samedi dernier par la police israélienne qui soupçonnait ce Palestinien de 32 ans d'être armé. Il tenait en fait un simple téléphone, était autiste et cherchait à s'enfuir après avoir pris peur.
Merci Louise Baudet. Alors ce mouvement de colère contre le racisme et les brutalités policières s'est encore poursuivi. Donc hier aux États-Unis, au moins 60 000 personnes ont rendu hommage aux défunts lors d'un rassemblement pacifique à Houston, sa ville natale du Texas, où il a grandi et où il doit être enterré la semaine prochaine. À Washington, plusieurs milliers de personnes, dont d'ailleurs la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, ont également manifesté jusque tard dans la soirée, bravant ainsi le couvre-feu décrété par la municipalité. En clair, cette vague de contestation historique ne connaît pas de répit. Pour en parler avec nous aujourd'hui, invité de la rédaction, François Durpère, historien spécialiste des États-Unis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors évidemment, pour la population noire des États-Unis, les manifestations actuelles ont réveillé le douloureux souvenir des émeutes raciales antérieures, que ce soit en 1965, mais aussi en 92, au point que beaucoup au fond disent la même chose. La mort de George Floyd n'aura été que le énième révélateur de siècles d'injustice sociale.
Oui, effectivement, ces images nous rappellent les images de 1992, les images de 1968, de 1967, de 1965, avec les révoltes de Watts, notamment Los Angeles en 1965. Et néanmoins, il y a deux choses vraiment très différentes. La première, c'est les gens qui manifestent. Vous les avez vus sur les images. C'est une nouvelle génération d'Américains, beaucoup plus multiculturaliste, beaucoup plus mélangée, hein, des Noirs, des Blancs. Cette jeunesse, dont le symbole est peut-être la fille du maire de New York, de Blasio, qui a été interpellée par la police ce week-end, qui est africaine-américaine par sa mère et qui est donc blanche, italo-américaine par son père. Il faut rappeler qu'un mariage sur cinq concerne des personnes de communautés différentes. Et ça, évidemment, c'était pas le cas en 1968, où les mariages entre noirs et blancs venaient tout juste d'être légalisés par la Cour suprême. Et la deuxième chose, c'est l'absence de leadership. Il n'y a plus Martin Luther King, il n'y a pas de grand leader. En revanche, c'est le temps 2.0, ce sont les réseaux sociaux qui jouent un rôle très important, évidemment, autour du hashtag Justice for Floyd, ou alors autour du hashtag Black Lives Matter.
Vous l'avez dit, ces manifestations débordent effectivement largement les seules populations noires et leurs quartiers. Faut-il en déduire que la colère aujourd'hui dépasse en réalité le seul cadre des violences policières ?
Alors la colère est avant tout, a pour motif avant tout les violences raciales, les violences racistes, policières. Vous le voyez dans les slogans, vous le voyez sur les pancartes, mais ça ne veut pas dire que ça concerne que la communauté noire. C'est-à-dire que vous avez des Américains de toutes les origines qui, en fait, c'est pour le dire d'une formule, c'est un peu l'Amérique d'aujourd'hui qui manifeste contre l'Amérique d'hier et d'avant-hier et qui veut tourner la page de cette Amérique-là. Il y a un témoignage important, celui de l'ancien maire de Minneapolis, qui fait son mea culpa, qui dit « je n'ai pas suffisamment réformé la police, j'aurais dû faire plus pour une police de proximité, j'aurais dû faire plus notamment pour la formation et l'antiracisme dans la police ». Et il disait une phrase, il disait « ce n'est pas normal que dans notre pays aujourd'hui, les Noirs non armés soient tués par la police quand les Blancs armés ne sont qu'arrêtés et menottés ».
Cette crise prend aujourd'hui une tournure de plus en plus politique. Elle voit notamment s'affronter les deux rivaux présumés de la prochaine présidentielle, Donald Trump d'un côté et Joe Biden de l'autre. Tous deux ont dénoncé d'ailleurs l'homicide de George Floyd, mais leurs réactions ont été évidemment sur le reste aux antipodes. Quand Trump se présente en président déterminé à restaurer l'ordre, Biden tente lui de s'inscrire en rassembleur. Il y a là véritablement deux types de leadership.
Oui, tout à fait. Et l'un est président, l'autre est candidat à la présidentielle. Trump, lui, il cherche à incarner, à reprendre le fil de son discours de 2016 qu'il a propulsé à la Maison-Blanche. Je suis le candidat de l'ordre. Je suis le candidat de la loi et l'ordre. Le problème, c'est qu'entre-temps, il est président. Et en étant président, certains Américains pourraient dire il est le président du désordre, puisqu'il a attisé les braises. Il a également eu un discours qui peut apparaître quand même comme un discours très diviseur. Vous savez, pour faire simple, sans caricaturer, on peut dire que quand vous êtes républicain aux États-Unis, donc de droite, eh bien, vous êtes peut-être plus concerné par les images de violence de manifestants que par les images de violence du policier. Et quand vous êtes démocrate, c'est un peu l'inverse. Vous êtes plus concerné par les images de violence du policier, par le racisme. Mais les indépendants, vous savez, ce ventre mou, ces centristes qui vont faire l'élection, eux, ils sont concernés par les deux images. Eux, ils sont frappés par ces deux images. Eh bien, des deux candidats, de Donald Trump ou de Joe Biden. Celui qui arrivera à avoir un discours, à avoir une proposition qui concerne ces deux faits, qui tient l'équilibre de ces deux Amériques, qui parviendra à être rassembleur de son discours, il aura sans doute la chance de pouvoir convaincre ces fameux indépendants qui décideront du sort de l'élection le 3 novembre.
On imagine que la rhétorique de Donald Trump des derniers jours va probablement pousser les électeurs noirs à soutenir Joe Biden. Pour autant, le candidat démocrate a une histoire assez compliquée en réalité avec les noirs américains. Plusieurs chapitres de son bilan pourraient lui nuire. Il est notamment accusé d'être l'architecte d'une loi pénale répressive qui avait été adoptée en 94 et qui a particulièrement frappé les afro-américains. Biden peut-il, selon vous, tirer profit de cette crise ?
Vous avez raison de rappeler cette histoire et vous pouvez, de manière beaucoup plus récente, citer cette gaffe de Joe Biden il y a quelques semaines, quand il dit « si vous votez pour Donald Trump en novembre, vous n'êtes pas noir ». Alors ça a beaucoup frappé, ça a beaucoup choqué, comme si les Noirs étaient en quelque sorte obligés de voter démocrate. Mais la réalité, elle est dans les urnes. Et ce qu'on constate, c'est quand même que Joe Biden a le soutien de la communauté afro-américaine, que c'est ce qui lui a permis de revenir dans la course. Vous savez, il était plutôt mal parti dans cette primaire contre Bernie Sanders. Pourquoi ? Parce qu'il a le soutien de son ancien président. Il était vice-président de Barack Obama. Et on peut penser qu'il aura le soutien, évidemment, des Africains-Américains. Mais la grande interrogation, c'est à quel point ? C'est les Africains-Américains se mobiliseront-ils suffisamment pour faire gagner Joe Biden et pour faire perdre Donald Trump ?
Merci François Durpère, historien spécialiste des États-Unis, je le rappelle, d'avoir répondu à notre invitation. Je précise également le titre de votre dernier ouvrage, L'histoire mondiale du bonheur, publié aux éditions du Cherche Midi. Et puis j'ajoute que cette question sera également le thème de la Grande Table, deuxième partie avec Olivia Gesbert tout à l'heure et son invité, l'anthropologue Didier Fassin. Si la crise du coronavirus a suscité chez certains l'espoir d'un jour d'après, annonciateur de jours heureux pour l'heure, force est de constater que le nouveau monde n'est pas tout à fait pour demain, voire qu'il ressemble même encore furieusement à l'ancien. Illustration avec les grandes manœuvres en vue d'alliances politiciennes pour le second tour des municipales en France. Les tractations se sont poursuivies hier jusqu'à la dernière minute. Toutes les listes sont désormais déposées et il en ressort notamment que le parti présidentiel, en position de faiblesse après un premier tour délicat, aura fait le choix de pencher plutôt à droite, laquelle droite espère capitaliser sur son ancrage local. Pour autant, Rosalie Lafarge, eh bien, il semble que ce second tour ne s'annonce pas franchement sous les meilleurs auspices pour La République En Marche.
On avait prévu la claque, ça se terminera en fessée, résume un macroniste. Il faut dire qu'à ce stade, rien n'est vraiment très encourageant pour le parti présidentiel. Il y a eu la trahison Colomb à Lyon la semaine dernière, les déconvenues d'Agnès Buzyn à Paris, les alliances, ici avec la gauche, là avec la droite. Mieux vaut perdre avec ses valeurs que gagner avec une alliance contre nature, met en garde un élu En Marche. Malgré tout, au sein du parti, on ne baisse pas totalement les bras, on maintient l'objectif d'avoir à la fin 10 000 conseillers municipaux, surtout grâce aux petites villes. Les dissidences nous ont forcément fortement affaibli dans les grandes, admet un ancien ministre. Ce macroniste reconnaît le manque d'enracinement des troupes, mais il veut croire que les équipes locales en retireront une expérience utile pour les départementales et les régionales. D'autres sont plus inquiets. Les probables victoires d'Édouard Philippe au Havre et de François Bayrou à Pau ne nous permettront pas de cacher le reste, admet un marcheur un peu amer, mais pas autant qu'un de ses collègues anciens socialistes. En marche, je ne sais plus ce que ça veut dire, lâche-t-il d'emblée. Ma jambe droite est hypertrophiée, la gauche est atrophiée, poursuit cet élu qui dénonce le côté arrogant et dédaigneux d'une partie des membres du mouvement. Ils sont contents d'avoir des followers sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme ça qu'on fait campagne et qu'on gagne des électeurs, persifle-t-il avant de lâcher. Il nous faut un chef, un cadre, une ligne. Ce mouvement aujourd'hui, c'est une armée mexicaine.
Voilà, et je précise que la tenue de ce second tour des municipales, qui doit voir quelques 16 millions d'électeurs se déplacer aux urnes, est encore soumis à un ultime verrou. En l'occurrence, le conseil scientifique devra donner un nouvel avis sur les risques sanitaires à la mi-juin. Comment aider un secteur automobile en grande difficulté, en l'occurrence le constructeur de la marque aux losanges, Renault, sans pour autant tourner en dérision les efforts fournis pour trouver une réponse à la crise sanitaire ou de la difficulté de concilier une relance économique solidaire avec une réalité dérangeante, la suppression annoncée de 15 000 postes, dont un tiers en France d'ici 2023. Hier, le gouvernement français a validé un prêt garanti de 5 milliards d'euros pour aider le groupe, estimant en particulier avoir levé les doutes sur l'avenir du site de Maubeuge. Sauf que ce matin, certaines déclarations ont à nouveau semé le trouble sur la nature du message adressé tant par le constructeur que par le gouvernement. Quand le président de Renault, Jean-Dominique Senard, juge que l'octroi d'une garantie publique sur ce prêt ne s'accompagne pas de contraintes très difficiles, la secrétaire d'État à l'économie, Pannier-Runacher, estime pour sa part qu'il faut accepter qu'il y ait une partie de restructuration, quoi qu'il en soit, et aussitôt officialiser donc la mise en place du prêt, l'action de Renault a grimpé de plus de 5%. Alors au-delà du seul cas du groupe automobile, la question se pose aujourd'hui de savoir si les industriels ont pris ou non la mesure de l'urgence à la fois sociale et environnementale, ou bien si en s'abritant derrière la crise sanitaire, les multinationales n'auront cherché au fond qu'à se tailler la part du lion dans la nouvelle manne d'aide publique sans aucune contrepartie. Or, à en croire le rapport de l'Association de protection de l'environnement Les Amis de la Terre, publié aujourd'hui, eh bien il semble, Annabelle Grelier, que le confinement aura nullement interrompu les activités de lobbying, bien au contraire.
Jamais on ne saura ce qui s'est vraiment passé pendant ces trois derniers mois. Une chose est sûre, la frénésie qui s'est emparée des lobbies pour se rapprocher du pouvoir est intense, nous explique Juliette Renaud, responsable de campagne aux Amis de la Terre.
Ils profitent actuellement d'une part du fait qu'il y a une opacité encore plus grande qu'en temps habituel et surtout de l'accès privilégié aux décideurs dont ils bénéficient. Donc on ne parle plus là de cocktails ou de petits déjeuners, mais c'est tout simplement des messages WhatsApp qu'ils peuvent envoyer en direct et faire passer leurs demandes de façon plus efficace. Surtout quand on parle de décisions politiques qui sont prises dans l'urgence, en quelques jours parfois, avec quasi aucun débat parlementaire.
Pantouflage, porte tournante, ces hauts fonctionnaires qui naviguent entre secteur public et privé ont été des portes d'accès évidentes. Les réseaux marchent à fond, sans parler des grands cabinets de conseil comme McKinsey ou Price qui gravitent aussi autour de Bercy, alerte Olivier Petitjean de l'Observatoire des multinationales.
L'autre aspect, c'est qu'en période de crise, on a créé des task forces, des cellules de crise, donc ils ont été en contact par divers biais tous les jours, plusieurs fois. On a des témoignages qui confirment ça, que ça s'est vraiment intensifié, ces contacts pendant la crise. C'est un moyen, encore un moyen de renforcer cette connivence. Et c'est pas fini. Donc on va voir toujours cette logique d'urgence, de nécessité, qui est en fait favorable à un pur tête-à-tête entre industriels et États, sans que les autres voient, même les parlementaires, mais encore moins la société civile, puissent intervenir sur les décisions. Au lieu de profiter de la crise pour engager une vraie transition, c'est une prime aux intérêts établis.
Qu'ils soient industriels ou agricoles, tous les lobbies essaient de profiter de la crise pour assurer leurs intérêts quand la société civile peine à obtenir des contreparties sociales et environnementales, affirment les Amis de la Terre. L'association réclame d'urgence la mise en place d'un véritable observatoire indépendant pour assurer la transparence des aides d'État ainsi que l'attribution des marchés et contrats publics.
Voilà, et toujours sur ce sujet, je vous invite à lire Les lobbies plus forts que jamais pendant la crise du coronavirus sur le site franceculture.fr. L'Assemblée nationale a voté hier soir une proposition de loi LREM permettant aux salariés de donner des congés sous forme de chèques vacances aux soignants. Cette mesure adoptée en première lecture devra encore être examinée au Sénat et au vu des difficultés de l'hôpital, eh bien elle est d'ores et déjà jugée hors sujet, voire obscène par l'opposition de gauche pour qui ce n'est pas aux citoyens vient de remercier les personnels, mais à l'État. Le coronavirus n'en finit pas de pousser vers les abysses. La sécurité sociale, dont le déficit devrait atteindre 52,2 milliards d'euros en 2020, un niveau jugé extrêmement inquiétant par le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Précisons que le précédent record atteint en 2010 durant la crise financière était de 28 milliards d'euros. Des barbelés aux menottes en passant par les détecteurs de mouvement, les centres de rétention où sont enfermés les immigrés clandestins en attente de leur expulsion prennent aujourd'hui et de plus en plus un aspect carcéral, en décalage donc complet avec leur fonction. Voilà ce qui ressort du rapport annuel de la contrôleure des prisons publié ce matin. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors comment assurer le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté? Voilà résumé peu ou prou tout l'enjeu donc de l'organisation interne et de la sécurisation de ces centres. Et pour y répondre, Antoine, la contrôleure des prisons, Adeline Hazan, publie aujourd'hui 257 recommandations.
257 recommandations qui ont été élaborées après des centaines de visites en centre de rétention, effectivement, mais aussi en prison et en hôpital psychiatrique, bref. L'ensemble des lieux où des personnes sont privées de liberté. La contrôleure des prisons, Adeline Hazan, a voulu mettre, avant son départ en juillet, selon son expression, un corpus organisé et facile d'accès, une sorte de synthèse de tout ce qui a été publié par cette autorité administrative depuis sa création, c'était en 2008. Les 257 recommandations sont valables pour toutes les personnes enfermées sur la base de décisions administratives ou judiciaires. Alors ça veut dire les prisonniers, les malades hospitalisés, sans leur consentement, les migrants placés en centre de rétention administrative dans l'attente de leur expulsion, mais aussi les mineurs en centre éducatif fermé. Parmi les recommandations, aucune mesure d'enfermement ne doit être mise en œuvre dans un local ou dans un lieu qui n'assure pas le respect de la dignité des personnes enfermées. Ces mots résonnent avec le rapport de l'année dernière. Ce rapport déplorait les conditions de vie dégradées dans certaines prisons où les rats et les punaises ne sont pas rares, les sanitaires sont en mauvais état, l'eau chaude est aléatoire. Autre recommandation dans cette longue liste, des enseignements et formations professionnelles de tout niveau doivent être proposés en quantité suffisante aux personnes majeures privées de liberté. Également, tout lieu d'enfermement doit disposer d'un personnel médical et soignant suffisant, ce qui est loin d'être le cas. Dans la majorité des établissements pénitentiaires, les médecins et soignants manquent, en particulier les dentistes et les psychologues. Alors ces recommandations sont minimales, elles ne doivent pas être regardées comme un modèle suffisant. C'est une première doctrine amenée à évoluer, précise Adeline Hazan. Ces propositions vont-elles être entendues par les pouvoirs publics? Eh bien, en 10 ans, il y a eu beaucoup de recommandations de ce genre, souvent très imparfaitement suivies.
Merci Antoine Maret. Et puis dans une lettre ouverte publiée là aussi ce matin par l'Observatoire international des prisons, cette fois-ci, une quarantaine d'organisations professionnelles de la justice, d'associations, mais aussi près de 1000 personnalités publiques appellent le président Emmanuel Macron à mettre en œuvre une véritable politique de déflation carcérale, ainsi d'ailleurs que l'avait déjà réclamé en début d'année la Cour européenne des droits de l'homme après avoir condamné la France pour les conditions de détention indignes qui règnent dans ces prisons. La Cour d'appel de Paris doit se prononcer aujourd'hui sur la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, accusé d'être l'argentier présumé du génocide au Rwanda et qui tente par tous les moyens d'être jugé en France après plus de 25 ans de cavale. L'octogénaire, longtemps l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, invoque son état de santé et la crainte d'une justice partiale pour refuser son transfert en Tanzanie où siège le tribunal de l'ONU qui doit le juger pour génocide et crimes contre l'humanité. Le Brésil a franchi hier le cap des 30 000 morts du coronavirus. Le pays a par ailleurs enregistré un nouveau record de décès quotidiens. Et pendant ce temps, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, lui continue de s'enfoncer dans le déni. Tout juste a-t-il dit regretter ce nouveau bilan humain, tout en précisant, je cite, que la mort était le destin de tous. Au Royaume-Uni, là-bas, la barre des 50 000 décès causés par le Covid-19 a été franchie. Hier, un sinistre bilan qui intervient 10 semaines après l'instauration du confinement et confirme donc le statut de pays comme l'un des plus touchés par la pandémie. Pandémie qui a fait, on le rappelle, quelques 375 000 victimes dans le monde. On reste en Grande-Bretagne qui s'est dit disposée à modifier sa réglementation en matière d'immigration si la Chine impose une nouvelle loi de sécurité nationale à Hong Kong. Décidée, vous le savez, par Pékin après une vague de manifestations pro-démocratie l'année dernière, la mesure a provoqué déjà un regain d'agitation dans le territoire autonome et ex-colonie britannique. Et c'est ainsi donc que le Premier ministre Boris Johnson déclare ce matin dans les colonnes du Times qu'il proposera à des millions d'habitants de Hong Kong des passeports et un possible accès à la citoyenneté britannique si la Chine va de l'avant. Les précisions à Londres d'Otsoufi.
C'est une déclaration en forme d'ultimatum à destination de Pékin. Si la Chine persiste à imposer sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, votée la semaine dernière par les députés de l'Assemblée nationale populaire, le gouvernement britannique facilitera l'immigration de ses habitants. Actuellement, 350 000 Hongkongais détiennent le passeport britannique d'outre-mer. Près de 3 millions de personnes supplémentaires seraient éligibles à une demande d'obtention de ce document et ses avantages seraient élargis, permettant à ses détenteurs de vivre et travailler au Royaume-Uni et leur ouvrant la voie vers une citoyenneté à part entière. Les États-Unis, le Canada et l'Australie ont déjà accusé Pékin d'enfreindre ses obligations internationales, mais avec cet avertissement réitéré ce matin personnellement par Boris Johnson dans la presse écrite, Londres franchit un pas supplémentaire. La Chine a immédiatement répondu, demandant au Royaume-Uni de cesser toute ingérence dans les affaires hongkongaises et d'abandonner sa mentalité de guerre froide et son état d'esprit colonial.
On termine avec un mot de météo. Des orages, parfois violents, feront leur apparition aujourd'hui sur une large partie du pays, notamment de l'Occitanie aux régions de l'Est. Quant aux températures, elles baisseront très légèrement ce mercredi, même si elles restent estivales, avec des maximales souvent comprises entre 24 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.